parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service qui s'intéresse aujourd'hui à la corruption dans la passation des marchés publics. Vous savez, les dépenses liées aux marchés publics occupent 60% du budget national, d'après les experts. Cependant, la corruption bat son plein dans le domaine, dans ce domaine des passations des marchés publics. L'indice du taux de recours au marché des gré à gré avait atteint 42% entre 2010 et 2015, d'après un rapport de l'ancien conseil spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance. Alors que faire pour lutter contre la fraude, la corruption, le détournement, le délit d'initié, les conflits d'intérêts dans la passation des marchés publics? C'est la thématique que nous abordons aujourd'hui dans Okapi Service avec Maître Guy Kabeya, expert en passation des marchés publics. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Maître Guy Kabeya, encore une fois, bonjour.
Bonjour. Bonjour, cher Daniel.
Alors, avant d'aller plus loin, c'est quoi, rappelons quand même, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par marché public?
Ouais, marché public, c'est d'abord, pour parler simplement, lorsque l'État veut construire des routes, lorsque l'État veut acheter des biens, par exemple des véhicules, des bancs ou même des médicaments, lorsque l'État a besoin des experts pour certaines tâches qui ne peuvent pas être accomplies par ses fonctionnaires, par exemple, l'État peut recourir aux entreprises privées pour se faire, et en contrepartie l'État paye un prix. Alors c'est ça le marché. Donc le contrat qui sera conclu par l'État pour satisfaire ces genres de besoins que j'ai indiqués de manière simple, pont, route, aéroport, rail et tout ce que vous voulez, en contrepartie d'un prix, c'est ça le marché public. Voilà.
Et c'est vrai que les dépenses liées au marché public occupent 60% du budget.
Non, c'est même pas, c'est même plus que ça d'ailleurs.
C'est plus que...
Il y en a qui ça va jusqu'à 70 parfois. Alors si on ajoute en plus ce qu'on appelle les partenariats plus privés, où l'État ne paye pas directement, mais l'État pose une garantie, c'est même plus que ça. Donc c'est vraiment un point important du budget de l'État.
Alors, donc, comment ça se passe? Quelle est la procédure lorsque l'État veut faire un travaux? D'abord, quels sont les différents types de marchés publics avant d'aller plus loin?
Tout à fait,
nous aider à comprendre.
Il y en a quatre. Le premier, c'est le marché des travaux que les gens voient souvent, comme les sautes-moutons. Sur les travaux des constructions, de ponts, de routes et tout ça, ou des écoles, des hôpitaux. Deuxième type de marché, c'est le marché de fourniture, des biens, pour les véhicules, par exemple, quand on veut acheter des médicaments, des bancs, des stylos, tout ce que vous voulez, fourniture de bureau.
Troisième type. Les uniformes de la police,
par
de l'armée.
Par exemple, absolument, même les armes. Ce sont des fournitures, absolument. Et le troisième type, c'est ce qu'on appelle les services courants. Ça veut dire que lorsque l'État veut faire, par exemple, l'entretien, par exemple, des bureaux, vous voyez, parfois, dans certains services de l'État, il y a des gens qui viennent pour entretenir des bureaux.
Voilà.
Voilà, c'est même pour le garage, vous voulez entretenir votre véhicule, le véhicule de l'État, ça, c'est un service courant. Et puis, le dernier type de travail.
On a vu, il y a récemment à Kinshasa des balayeurs dans la rue, des gens qui balayaient la rue.
Excellent. Ça, c'est vraiment le cas type des marchés de services courants, services physiques. Le quatrième, le dernier, c'est ce qu'on appelle le marché de prestations intellectuelles ou de consultance, où l'intellectuel plutôt est important. C'est comme les consultants, les formateurs, les experts qui viennent pour élaborer un plan de développement, ou même quand on veut construire une route, ceux qui font des études avant de faire des travaux, ceux-là sont des consultants.
L'État peut recourir à un bureau d'études.
Absolument, absolument. Il y en a d'ailleurs beaucoup. Et vous verrez d'ailleurs souvent, on les appelle maîtres d'œuvre. Si vous voyez dans les pancartes, quand il y a un chantier, on met maître d'ouvrage, c'est lui qui a passé les marchés. Maître, l'entreprise, c'est lui qui a gagné les marchés pour construire. Le maître d'œuvre, c'est le bureau d'études qui a fait les études et qui est aussi chargé de surveiller l'exécution des travaux par l'entreprise au nom du maître d'ouvrage, qui est l'État.
Voilà, donc vous venez d'identifier quatre types de marchés. Quelle est la procédure des passations des marchés publics?
Le principe, c'est que tous les marchés doivent être passés par appel d'offres. Ça veut dire qu'il faut recourir à la concurrence. comme j'aime toujours dire, c'est l'argent public. Et on ne peut pas marcher, on ne peut pas passer un marché de l'argent public d'une manière privée. Mmh. Donc il faut recourir à la concurrence. Il faut que tous ceux qui peuvent gagner un marché puissent être appelés à soumissionner par le biais de l'appel d'offres. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut passer par l'appel d'offres. Mais on peut aussi passer par le gré à gré. Ça veut dire qu'au lieu de recourir à la concurrence, on va directement auprès d'une entreprise, mais les cas de gré à gré sont limités, les conditions de forme, donc quelle est la procédure à suivre, elle est limitée, la procédure est limitée, mmh. et en plus, quelles sont les conditions de fond, les cas pour lesquels on peut recourir à un gré à gré, ces cas aussi sont limités.
Donc ça c'est un par peu exemple le cas des sauts de mouton ici à Kinshasa. Bon, est-ce que
non,
il y a eu appel d'offres ou bien
pas,
c'était
moi j'ai pas vu d'appel d'offres. Moi au moins l'appel d'offres il est censé être publié. Donc un appel d'offres ça veut dire que vous avez publié. Je n'ai pas vu d'appel d'offres mais pour ce genre de montants, je crois que c'était fait de gré à gré. Je crois que contrairement à ce que je n'ai pas vu moi d'appel d'offres, déjà même le temps où on a annoncé les sauts de mouton et quand on a commencé, c'était difficile qu'on fasse l'appel d'offres. Parce que ça s'est fait en 2-3 mois.
Oui, c'était très rapide.
Au regard de la complexité des travaux, il fallait minimum 6 mois d'appel d'offres. Donc, on serait encore dans la poursuite d'appel d'offres maintenant. Je pense que c'était fait de gré à gré. Voilà.
Voilà. Et il semble que c'est dans les gré à gré, le marché gré à gré, qu'il y a beaucoup de cas de corruption.
Oui, il y a un risque effectivement dans le gré à gré. Parce que lorsque on recourt à l'appel d'offres, à la concurrence, plusieurs viennent. Et c'est le meilleur, celui dont l'offre est, comme on dit, économiquement la plus avantageuse. Ça veut dire qu'il remplit les conditions dont l'offre remplit les conditions qui est la moins chère, qui est retenue. Alors, lorsqu'il y a plusieurs personnes en jeu, c'est difficile de corrompre, même si ce n'est pas impossible. Parce que ceux qui perdent le marché peuvent contester qu'on ait donné à quelqu'un qui n'avait pas la meilleure offre. Parce que il y a concurrence. Quand la concurrence suppose l'ouverture, n'est-ce pas, la publicité, on fait savoir ce qu'on fait. Or, le gré à gré, à ceci des particuliers, c'est que l'autorité contractante va directement auprès d'une société, d'une entreprise, avec laquelle elle signe un contrat, mais à qui elle demande d'ailleurs un prix. D'ailleurs, le prix peut même être négocié. Donc, le prix n'est même pas fixe. Donc, c'est la libre contractualisation. Et le risque de corruption est élevé dans un marché gré à gré. Je ne dis pas que dans la paix d'offre, il n'y a pas de risque de corruption. Mais dans le gré à gré, le risque est plus élevé, effectivement.
Le risque est plus élevé. Alors, donc, on a signalé qu'il y a beaucoup de cas de corruption, détournement, la fraude, les délits d'initié, les conflits d'intérêts. Expliquez-nous comment c'est tous ces concepts et comment ça se passe.
Oui, justement, dans la passion de marché, il y a une particularité. Comme il faut recourir à la concurrence, il faut que tous ceux qui peuvent venir soumissionner aient la même information. Or, le délit d'initié, c'est particulier que quelqu'un est mieux informé qu'une personne est mieux informée qu'une autre. C'est le cas, par exemple, vous allez vous lancer un appel d'offres, vous cachez certaines informations clés pour préparer une offre, n'est-ce pas, à d'autres, et vous ne donnez qu'à une seule personne. Okay. Ça, c'est un délit d'initié. Oui, absolument. Donc, en fait, vous initiez un candidat mieux que les autres.
Voilà.
C'est ça l'initiation. Bon, pas l'initiation des gens, des mystiques, non. L'initiation dans le sens vraiment de...
C'est ça. Voilà. Vous favorisez un autre par rapport aux autres.
Un exemple ridicule, hein. C'est comme quand vous êtes en plein examen, même à l'université. La question est posée. Mais lorsqu'un étudiant demande qu'on explique la question, il faut que le professeur explique la question à tous les étudiants. Mais si vous expliquez la question seulement à un seul étudiant, en fait, il y a quasiment des l'initié. Parce que la personne à qui vous expliquez, n'est-ce pas, aura une information meilleure que les autres.
Bien
donc,
sûr.
Il y aura inégalité donc, entre des traitements.
Des chances,
entre... Voilà. Ça, c'est le premier cas. Donc, l'idée d'initié, c'est le fait pour une personne de l'autorité contactante, donc de l'État, d'informer un candidat potentiel plus que les autres.
Là, c'est vraiment, peut-être que c'est son frère, c'est son ami,
oui,
tout ça.
Ça peut même être quelqu'un qui est intéressé, quoi.
Oui.
Ou même mieux que ça, hein, il est au courant. Il y a des choses un peu bizarres. Il est au courant qu'un appel d'offres sera lancé dans 3 mois. Lui, il est déjà au courant 3 mois avant. Ça veut dire qu'il aura plus de temps que les autres pour préparer le dossier.
Bien sûr.
Donc, il a un avantage par rapport aux autres.
Et c'est un délit d'initié.
Donc, il y a beaucoup de cas d'initié. C'est même plus pernicieux. Même le budget du marché. Le budget du marché est censé être confidentiel. Voilà, moi j'ai un marché, j'ai préparé les études, moi je sais que mon budget sera X. Mais au lieu de donner le budget à tout le monde, je donne seulement à certains pour que ceux qui préparent aient une
idée. Ils vont bien préparer les choses en fonction de ces montants.
Voilà, donc c'est des choses encore plus pernicieuses qui peuvent arriver dans l'initié. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Alors c'est encore meilleur. C'est le cas de quelqu'un qui y est soumissionnaire, mais qui a des liens aussi avec l'autorité contractante. des liens qui sont, comme je dis, qui, les intérêts qui sont incompatibles. Par exemple, vous voulez vous lancer un appel d'offres, vous êtes un ministre, mais celui qui soumissionne, c'est votre femme.
Ou votre fils.
Voilà. Donc voilà, vous allez défendre les intérêts de qui? De votre foyer ou du gouvernement. Oui, c'est même plus loin. Il y en a même qui sont même plus pernicieux. Ils sont fournisseurs et autorités contactantes.
En même temps.
Oui. Ça veut dire qu'ils créent une papeterie ou une société de construction ou un bureau d'études
pour fournir les papiers au ministère
où il est lui-même.
Lui-même est responsable là-bas.
Il a un conflit d'intérêts. Alors le gars, donc, il se paye lui-même, quoi. Donc, il paye, il fait le... Bon, c'est là, on est en plein délire, quoi. Donc, c'est le cas.
Et ces cas sont légion.
Oh, mais il y en a plein. Il y en a qui sont malins, hein. Ils font un écran. Ils ne vont pas être eux-mêmes.
Non, ils apparaissent pas.
Non, hein, ils viennent, comme on dit, peut-être me confier. Donc, c'est lui qui fait l'écran. Il se rencontre avec les gens, là, au niveau de Matongé ou même des bonhommes. Ils font des histoires. Mais c'est ça. Et ça, c'est très pernicieux. Parce que c'est ce qu'on appelle la délinquance à col blanc, hein, c'est pas Koulouna, c'est vraiment Koulouna en cravate, quoi, les gens qui sont intelligents qui montent. Et la prise illégale d'intérêt, ça, c'est aussi des cas où quelqu'un est censé contrôler, par exemple, une entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que une entreprise est censée être contrôlée, par exemple, les travaux d'une un bureau d'études, censé contrôler les travaux d'une entreprise. Mais le bureau d'études prendre des intérêts dans l'entreprise qu'elle contrôle.
Maintenant, dites-moi, quel contrôle elle va exercer à ce moment-là?
Ah oui, c'est un peu. Donc, en fait, ce n'est pas un conflit d'intérêts, mais c'est pendant que le bureau qui contrôle l'entreprise, qui prend des intérêts là-dedans. C'est très pernicieux. Et ça peut aller dans le sens...
Il n'y a plus contrôle à ce moment-là.
Non, il n'y a plus contrôle.
Il n'y a plus contrôle, en fait, ça c'est sûr.
En fait, il se contrôle lui-même. Ça, c'est très, très embêtant.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Fabrice Bokoundé est en Bandaka. Omer Bagno nous appelle depuis Yarou. Germain Akili est à Boutembo. Nous parlons de la corruption dans la passation des marchés publics. Vous voulez participer, composez les 081-890-6394.
À Yarou, sur 88 FM.
Comment lutter contre la corruption dans la passation des marchés publics? Fabrice Bokoundé de Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour, journaliste, bonjour, chers auditeurs de la radio Capi. Parce que ça a fait longtemps qu'on a parlé contre la corruption, mais ça ne s'est pas totalement. Je voulais seulement intervenir ceci. Donc, nous qui sommes sûrs, on peut aussi être ou avoir un diplôme, mais en faisant une demande d'emploi, ça vous demande d'avoir un moyen. Même celui qui n'a pas même intelligent peut aussi avoir des moyens plus que vous et il y aura son travail. Et maintenant, je voulais demander la question est celle-ci. Nous qui n'avons pas de moyens pour faire la corruption, que devons-nous faire à cette situation?
Bon, on ne parle pas de la corruption. Alors, vous n'êtes pas tellement dans les domaines. Merci. Dans les sujets du jour, nous parlons de la corruption dans la passation des marchés publics. Merci d'avoir appelé. Omer Bagnon, vous êtes à Harou. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Omer?
En tout cas, ce sujet m'intéresse beaucoup, d'autant plus que beaucoup passent souvent que le marché public, c'est peut-être le marché où on vend des cacahuètes, foufou, tant d'autres articles. Quoi. Alors, je voudrais dire que nous sommes en train de parler de la corruption c'est du marché public. Vous savez, il y a différentes sortes de marchés que l'invité a cité ici. Nous sommes en train de l'observer par-ci, par-là, mais sauf que quand, par exemple, on dit que ça donne voix à la concurrence, c'est-à-dire l'intervention de beaucoup de gens qui sont capables de souscrire à de divers domaines pour fournir des travaux ou soit fournir des services. En tout cas, à un moment donné, on veut seulement constater qu'on a accordé le marché à une personne quelconque ou soit à une entreprise quelconque. Hein, sans avoir attendu qu'on avait fait justement l'assez
d'appel. Un appel d'offres. Ouais.
Alors,
même là-bas à Harou, il y a souvent des cas de marché.
Le marché de travaux.
Oui.
Pour la construction des routes, on veut seulement entendre qu'en tout cas, on a accordé à une entreprise quelconque, même si l'entreprise n'avait pas de conditions requises pour.
N'avait pas rempli les conditions.
Par louer des machines par-ci, par-là pour construire les routes, peut-être les contrats ne vont pas prendre fait. En tout cas, on a beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. On constate aussi que c'est le problème de corruption qui favorise tous ces problèmes. Alors, c'est avec beaucoup d'inquiétude que nous sommes en train de parler. Je voudrais dire que je ne sais pas si dans tous les milieux de la République démocratique du Congo, ça se passe ou pas, parce que on constate seulement ici que tout se passe de cette manière-là.
Merci. D'accord, merci. Omer depuis Arou. Germain Akili, vous êtes à Boutembo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question par rapport au marché public?
Oui, ma question était de savoir, est-ce que pour la passation de marché public, est-ce qu'il y a un soubassement juridique sur lequel un soumissionnaire qui constate après que non, il y avait déjà fuite d'informations, on a livré les informations à d'autres soumissionnaires qui ont peut-être des relations dans la passation en question. Est-ce qu'il y a un soubassement juridique sur lequel un candidat peut se baser pour essayer de décourager de tels comportements? Parce qu'on a constaté quand il y a déjà l'idée de faire la passation de marché public, il y a la fuite d'informations et vous verrez les entreprises commencer à chercher les éléments possibles parce qu'ils ont déjà
des fuites d'informations.
Oui, il y a une fuite d'informations et là, les candidats commencent à chercher tous les nécessaires et pourtant ils ne remplissent même pas des conditions. Est-ce qu'il y a un soubassement juridique que notre expert peut nous faire pour essayer de décourager de tels comportements? Il faut que dans notre pays, la capacitation où chacun doit travailler selon la capacité, la méritocratie, et non favoriser peut-être ceux qui ne seront pas même capables d'exécuter même les travaux en question, les travaux concernés.
D'accord. Et, merci Albert, oui. Merci Germain depuis Boutembo. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à notre invité. Bonjour. Ouais, c'est un sujet très intéressant. Moi je dois aborder Moi, ce sujet, en fait, en ce sens, hein, nous avons vraiment eu le programme des 100 jours de son excellence, monsieur le président de la République. Je pense que, ici à Kananga, je pense qu'on a beaucoup parlé chaque jour sur les chaînes de radio, on en parle. Et rien n'est fait sur terrain jusqu'à présent. Et alors, nous avons suivi, tous les jours si nous suivons les médias, je pense qu'il y a eu une dénonciation. On a dénoncé le marché de gré à gré au niveau, de haut niveau. Donc, cela, les personnes qui étaient censées de pouvoir réaliser cette activité ou ce programme de 100 jours sont à la base, en fait, de ce genre de manœuvres, tout ça, des marchés de gré à gré. Donc, on pourrait imaginer peut-être que ça pourrait être, en fait, la cause de non-application du programme.
Des 100 jours du chef de l'État.
Le président de la République. Alors, j'aimerais poser la question à notre invité.
Oui.
Sur ce, est-ce que réellement, lorsqu'on a dénoncé ce genre de cas de haut niveau, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Est-ce qu'il y aura une autre procédure? Nous, le peuple, on le pense que c'est notre programme, nous devons nous approprier, nous devons revendiquer, parce que le droit qui n'est pas revendiqué est bafoué. Donc,
Donc, Albert, ce programme prévoit la réhabilitation des routes, construction des routes en Kananga.
Aujourd'hui, je vous donne
dans la province.
Axe Kananga, Kalambambouji, axe Kananga, Tikapa, Kananga, Lakamukamba. Je vous dis, nous avons eu, dès le début, nous étions en joie que, voilà, nous allons vraiment avoir des routes vraiment, quand même, praticables. Malheureusement, c'est le pleur.
D'accord, merci. On a retenu votre préoccupation. Batoga, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Badi Daniel Ngatama.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la corruption dans la passation des marchés publics?
Oui, tellement que j'étais vraiment occupé, comme je vous aime trop, je suis venu en retard, je n'avais pas suivi bien le sujet du jour. Là, j'ai appris un peu pour moi le sujet, parce que je suis venu en cours de l'émission.
Alors, comme vous êtes venu en retard, je vous conseillerais d'écouter la suite. C'est que l'invité va discuter les réponses qu'il va donner aux questions des autres et ensuite vous allez peut-être nous rappeler. Bonne journée.
Ok, merci.
Bien, Maître Guy, vous avez la parole.
Ouais, merci. Même, en fait, Fabrice, le cas de Bouende, même si ce n'est pas le marché public, mais il a posé une problématique intéressante.
Oui.
En fait, il dit, il y a certaines qui n'ont pas les, les diplômes, ou même qui n'ont pas l'expérience. Ils ont le diplôme, ils n'ont pas l'expérience, mais qui ne sont pas recrutés. Il arrive aussi dans les marchés publics qu'on mette parfois des critères qui dépassent l'objet du marché. Pour écarter d'autres personnes.
Par exemple.
Ah, voilà, madame. Vous voulez, par exemple, vous voulez construire un hôpital. Mm-hmm. Un hôpital, c'est pas. Bon, une école. C'est pas compliqué, une école. On dit, mais on demande qu'il faut que vous ayez un chiffre d'affaires de, je ne sais pas moi, $1 million par an. L'école elle-même, quand vous la construisez, c'est $200,000.
Mais 200 000.
Donc ça veut dire, en fait, en mettant ce critère-là.
C'est pour écarter.
Voilà. Donc, écarter en fait, voilà. Donc, cet élément-là peut venir dans le marché public. Donc, je crois que ce n'est pas si éloigné.
D'accord.
L'autre élément, c'est un élément assez intéressant de Germain Akili. Le soubassement juridique. Effectivement, il y a un soubassement juridique. D'abord, le conflit d'intérêts, c'est aussi une infraction. Quelqu'un qui est en conflit d'intérêts peut être poursuivi par le parquet. Il peut payer jusqu'à 20 millions de francs congolais d'amende. Alors si ça va jusque dans la concussion ou dans la corruption, ça peut aller très loin.
Donc qui peut porter plainte à ce moment-là, les soumissionnaires
d'abord même toute
qui
personne,
se sent lésée.
Toute personne qui peut dénoncer ces conflits d'intérêts. Et au-delà de tout. Donc moi je peux dénoncer comme on dénonce les mouvements citoyens, les droits de l'homme, même la population peut dénoncer. Le soumissionnaire, même le candidat lésé peut dénoncer aussi ça. Et celui-là, le candidat qui peut être lésé, a un organe qu'il peut saisir. C'est l'autorité de régulation des marchés publics, que beaucoup ne connaissent pas. Cette autorité a le pouvoir de sanctionner disciplinairement une société qui se livre au conflit d'intérêts, y compris en demandant que la société ne puisse plus gagner des marchés pendant 5 ans. C'est prévu. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un dossier bien constitué qui soit déposé. Ça, c'est un. Deux.
Et qui est censé exercer les contrôles pendant les passations?
Il y en a beaucoup. Déjà, en interne, au niveau de l'autorité contactante, au niveau de l'État, il y a plus de services de contrôle. Il y a le BTC, le bureau technique de contrôle du ministère des ITPR. Il y a même les organes internes de l'État. Il y a l'autorité de déclaration des marchés publics dont j'ai parlé, qui est censé faire le contrôle a posteriori. Même le contrôle d'exécution, faire des audits, même des enquêtes. Et saisir, s'il y a des infractions, rapporter au parquet qui peut poursuivre. Ça, c'est un. La personne qui est lésée, donc le soumissionnaire qui est lésé, peut aussi saisir le Conseil d'État. On oublie qu'un marché public, il y a des actes administratifs. Les gens ne voient le Conseil d'État que lorsqu'il y a des gouverneurs qui sont défenestrés. Non, c'est aussi pour les marchés publics. Oui. C'est prévu que quelqu'un qui n'est pas content, n'est-ce pas, d'un marché qui est mal passé, où il y a risque de conflit d'intérêts, ça veut dire qu'il y a un vice de procédure qui saisit le Conseil d'État pour que le Conseil d'État annule les marchés. C'est possible.
C'est possible, voilà. D'annuler.
Absolument. Alors, il y a l'ami de Albert qui pose des questions sur les contrôles, les différents contrôles qui peuvent avoir lieu pour Kananga. Je pense que d'abord, il faut commencer par le contrôle citoyen. Les gens doivent savoir que quand on construit une route, c'est d'abord pour eux. Ce n'est pas pour le gouvernement. C'est bien que les gens viennent inaugurer pour faire le malin, c'est vrai. Mais c'est d'abord pour eux. Quand une route est mal faite, les riverains peuvent protester. Ça, c'est un. Et deux, il y a le contrôle parlementaire. Donc, au niveau de chaque province, il y a une assemblée provinciale. Alors, l'élément principal du contrôle, ce n'est pas seulement la rémunération des députés provinciaux qu'il faut contrôler, parce que nous avons payé, donc on...
Voilà, on va contrôler.
Non,
il n'y a pas que ça.
Non, il faut commencer par contrôler d'abord les services publics. Est-ce que les marchés qui ont été prévus... D'abord, il y a des marchés qui sont prévus pour des raisons électoralistes. Ça arrive. Est-ce que la route qui était prévue, est-ce qu'elle était utile à la population? Pas pour désagréger son village, non. Pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Est-ce que la route elle est économiquement intéressante? Ça veut dire qu'elle peut désenclaver, elle peut entraîner que les vivres du milieu rural entrent en ville, qu'il y ait des circuits économiques.
Une route
desserte agricole. Voilà, par exemple, ce qu'on appelle les pistes rurales et tout ça. Donc voilà. Et puis, il y a aussi, n'oubliez pas qu'à la fin, il y a le contrôle électoral populaire. Lorsque nous allons voter souvent, nous voyons, parce qu'on nous a donné un t-shirt, qui pose des questions aux candidats quand ils viennent dans nos réunions là-bas. Vous étiez là pendant 5 ans. Les marchés que vous avez prévus, comment vous les avez passés? Est-ce qu'ils ont abouti? Qui pose ces questions-là? Personne ne pose la question. Mais tout le monde est dans telle composante ou quoi, je ne vais pas citer le nom ici. Mmh. Donc on oublie l'essentiel que lorsqu'on a un gouverneur, 60% de son boulot en termes d'argent, c'est pour des routes, des hôpitaux, des écoles, et ça, personne ne pose la question.
Alors on a l'impression que c'est dans les travaux publics qu'il y a beaucoup plus...
C'est la clé de la gouvernance publique. C'est la clé de la délivrance des résultats publics. Quand on vous dit que je vais vous faire des écoles, des hôpitaux, des routes, des aéroports.
Maître Guy, regardez par exemple les routes de Kinshasa actuellement. Les routes sont défoncées. Vous avez des nids de poules partout. Alors ça pose un problème sur la qualité. Est-ce qu'on peut se dire que les marchés ont été bien passés?
Bon, là c'est la question encore plus complexe. Est-ce que le marché était bien préparé même? Vous avez un terrain marécageux. Moi je vais donner un exemple. Vous allez construire, par exemple, vous allez construire du côté de Kingaboa. Mmh. Tout le monde sait que Kingaboa est marécageux. Mmh. Donc il faut que vous calibriez votre route pour que même s'il y a une grosse pluie, il n'y a pas de fissures. Ça, c'est une question d'étude. Même les, il y a un grand reproche qu'on fait. Non, quand il y a des trous à Kinshasa, on attend que le trou devienne plus gros.
Comme ça.
Bon, il y en a qui disent ça. Mais la question qui se pose, mais est-ce que d'abord, la route, là, qui est censé être responsable de la route? Est-ce que c'est l'office des routes? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la commune? Et c'est des questions que les gens ne se posent peut-être pas pendant les mandats, mais ça vient après et puis les gens se plaignent. Il faut commencer à bien préparer les marchés, comme je dis. Ça correspond à un besoin réel. Les études sont bien faites. Et puis après, on fait la concurrence. La concurrence permet d'avoir la qualité. C'est comme dans une salle de classe, j'aime toujours répéter, quand on sait que c'est le fils du maître qui est premier de la classe, les autres n'étudient plus. Ils se disent, bon,
c'est fini, les enfants d'abord.
Voilà, donc voilà. Or, si on met les gens en concurrence, celui qui a gagné aujourd'hui, demain il peut perdre, parce que le deuxième a travaillé mieux. Et en travaillant mieux, il peut trouver une sorte d'astuce qui va coûter moins cher et ça va améliorer.
Maître Guy, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre cette corruption qui s'est installée dans ce domaine?
Excellent. Premier élément, d'abord, pour lutter contre la corruption, il faut que les gens sachent c'est quoi les marchés publics. D'abord, il faut informer les gens et former les gens. Parce qu'il y en a qui sont corrompus parce qu'ils sont ignorants. Il y en a qui sont même raquettés parce qu'ils sont ignorants de la procédure. Mmh. Deux, il faut mettre en place des mesures de prévention. Par exemple, ceux qui passent des marchés, on a dit bien 60% du budget de l'État. Mais imaginez qu'un fonctionnaire de l'État qui gagne 300 000 francs congolais, ça correspond à peu près à 200 dollars et encore, et vous lui demandez de passer toute l'année des marchés de 10 millions de dollars. N'est-ce pas?
La tentation est grande.
Donc en fait, il a 3 600 000 francs congolais. Mmh. Donc 3 000 dollars, à peu près 2 000 dollars.
Mais certains ont déjà pris goût à ça, même si vous criez sur les toits, il est dedans.
Il le fait parce que déjà il voit l'argent qu'il gère par rapport à ce qu'on le paye, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir une culture de la moralité. Il y en a qui sont bien payés, moi je ne peux pas comprendre qu'un ministre soit corrompu, parce qu'ils sont censés être bien payés. On est censé, mais comment est-ce qu'ils sont quand même corrompus? Donc pour moi, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que pour les fonctionnaires, il faut peut-être penser à
mais il faut y a une question de moralité.
Moralité, de déontologie, d'éthique, n'est-ce pas, personnelle. Et aussi d'éducation. Il faut qu'on dise que les gens, comme disait Jean Goubal, Mbongo, il y a l'État, il y a Libengana, yote. N'est-ce pas?
Donc, il faut savoir faire la part des
choses.
Voilà,
entre l'argent de l'État et l'argent, n'est-ce pas, et l'argent personnel.
Et les sanctions aussi.
Et pour sanctionner, il faut que les organes de sanctions, qui commencent par les sanctions administratives, fonctionnent. Et même les sanctions judiciaires. N'est-ce pas? Que les gens, parfois, cherchent des infractions ailleurs. Là, tout le monde est dans les sextapes et tout ça. Mmh. On oublie que les marchés publics, c'est un pan entier qui est un chiffre qui est noir dans la corruption, même dans les infractions. Personne ne fait des enquêtes sérieuses dans les marchés publics. Un exemple. Vous vous rendez compte que la route s'abîme. Une question. Quel était le centimètre qui était prévu pour la route? Vous vous rendez compte que les...
Je me souviens même à l'époque, il y a un entrepreneur qui avait gagné des marchés ici, et après, il a abandonné les chantiers, il a disparu.
Voilà, alors vous vous rendez compte, vous mettez sur 200 km, il a fait 2 cm de macadam, alors qu'il devait mettre 3 cm. 1 cm sur 200 km, imaginez la quantité. Et il a été payé pour 3 cm. C'était un faux en écriture. Donc il a fait un faux.
Il a volé l'État.
Il a volé l'État. Parlons bêtement. Mais les juristes vont bien trouver une infraction là-dessus. Et ça, il faut sanctionner et qu'on arrive jusqu'à la fin de la sanction, à la mise en œuvre, que les gens soient en prison ou soient bannis de leurs fonctions ou quoi, c'est ça. C'est un peu ça que je propose.
On va accueillir 3 auditeurs, Julien de Bounia, Patrick nous appelle de Mbujimaï et Fiston Ngala de Guémena. Julien, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous parlons de la lutte contre la corruption dans la passation des marchés publics. Quelle est votre préoccupation?
Oui, l'invité a bien évoqué beaucoup de cas de corruption. Il a évoqué beaucoup de technicité dans cette matière. Pour le cas de corruption, il faudra que l'État établisse urgemment une brigade de lutte contre toute forme de corruption. Voyez, par exemple, lorsque la fois dernière, on a parlé de ces gens-là qui reçoivent déjà le marché, mais c'est tout à fait un marché qui appartient encore à leur donc à l'État, par exemple, parce que ils reviennent toujours pour appeler la nuit, pour appeler mutuellement, est-ce que je peux avoir, est-ce que je peux avoir, etc.
D'accord. Donc, vous proposez, Julien, la mise en place d'une brigade de lutte contre la corruption, particulièrement dans ces secteurs de marché public.
Exact.
D'accord, merci. On va donner
Pour ce qui est de l'exécution, excusez-moi, pour ce qui est de l'exécution de marché,
oui.
Il existe plusieurs types de formes de marché public, notamment pour le cas de Kananga et toutes les routes, parce que j'ai eu à sillonner un peu le Congo, je vais à Bouta par route, je vais à Boutembo par route, à Beni, etc. J'ai remarqué qu'il fallait faire l'allotissement de marché. C'est une forme de procédure qui exige que bien entendu, le marché soit donné à plusieurs exécutants, notamment les propriétaires, donc la population bénéficiaire. Que cette population bénéficiaire sache aussi prendre tous les travaux en main. Ils s'en approprient. Vraiment. Et dans ce cas, je vais atterrir. Que les législateurs pensent aussi à émettre des brigades d'intervention rapide. Lorsqu'on a déjà terminé une route, ça ne suffit pas. La route ne soit pas abandonnée. Les petites populations là qui avaient exécuté par exemple le refilage de caniveaux, qui avaient bénéficié par exemple de la coupe de bambou, que cette population reste comme des cantonniers, bien entendu, pour la partie là qui a été bien exécutée. Voilà ma petite contribution.
Merci Julien. Merci Julien Debounia. On va donner la parole à Patrick Dembujimaï et ensuite à Fiston de Guémena. Patrick, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la corruption dans la passation des marchés publics?
Ok, merci, bonjour, chers journalistes. D'abord, je ne suis pas Mbujimaï pour la présidence, je suis à Kinshasa.
Oui, d'accord, vous êtes à Kinshasa.
Je voulais juste parler, d'abord répondre à mon prédécesseur, que le marché public, il n'y a pas un problème de brigade, parce que nous avons déjà une direction générale de contrôle des passations des marchés publics. Ok, voilà, là c'est une parenthèse. Et moi, ma préoccupation est celle-ci. J'ai passé un temps dans ce domaine des marchés publics, mais je vois souvent les partenaires internationaux, excusez-moi, octroient les marchés. Sans passer par l'autorité contractante de la province, sans passer par les autorités de la province, et vous allez voir que ces marchés-là sont un peu des marchés. Je vous donne l'exemple. À Pakine, Trafin à Kikuit, pour les routes de recettes agricoles. Mais il y a une direction provinciale de contrôle des marchés publics à Bandounouville. Mais on va vous dire qu'on voit des gens travailler dans des routes comme des Kimilangundu, les fonds là-bas, sans passer par la direction, sans passer par la série. Quand vous interpellez, on vous dit que ce sont des partenaires internationaux qui nous ont octroyé les marchés. Est-ce que là aussi, il y a une corruption? Et deuxième préoccupation est celle-ci. Une entreprise se répète dans presque tous les marchés. Marché de fourniture, marché de travaux, marché de prestations et consorts. Est-ce que c'est une infraction ou bien c'est une corruption? Parce que vous allez voir qu'une entreprise a déjà gagné, exemple, le marché de consorts de stade. Arrivant au moment de mettre peut-être de la peinture, mais la même entreprise se répète encore. Et de l'électricité, la même entreprise se répète. Bon, voilà, la sécurité, c'est la même entreprise qui se répète encore. Est-ce que ça aussi, c'est une corruption? Voilà mes préoccupations.
Merci Patrick. De Kinshasa, Fiston Gala de Guémena, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Bonjour Jody Daniel, bonjour à notre invité Guy Kabea, que nous les saluons en passant. Nous comprenons que ce sujet vraiment tombe à point nommé parce que c'est en principe demain que le chef de l'État va totaliser un an depuis son accession pacifique au pouvoir. Et nous comprenons aussi que ce sujet va nous faire réfléchir, de poser au moins des questions. Alors, sur les marchés qu'a eu à réaliser les chefs de l'État. Je vais entrer vraiment dans le corps de notre sujet d'aujourd'hui.
Allez-y rapidement, monsieur, vous n'avez pas beaucoup de temps.
Je vais entrer dans le corps de notre sujet. Notre préoccupation par rapport aux réalités qui se passent dans le site du Bangui est qu'il y a plusieurs marchés publics qui tombent, qui arrivent, mais vous allez constater que dans de plusieurs des cas, il y a que des familles politiques. Vous allez constater que ce marché est réparti soit aux familles des ministres, soit aux gens qui évoluent dans des marchés, dans des partis politiques, mais la jeunesse, au moins,
Fiston,
est mise en écart.
C'est est-ce que vous avez des exemples? Vous avez des exemples à donner?
Ma première question est de savoir, qu'est-ce qui est à la base de cette pratique de la corruption dans la passation des marchés publics? Deuxième préoccupation,
Fiston.
Comment pour changer la
Allô, donne, Fiston.
Comment faire pour revenir dans le bon sens?
D'accord, merci Fiston. On va donner la parole à l'ingénieur Séraphin de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, bonjour Jody, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. Je pense que la passation des marchés, c'est même la clé de la création de l'emploi et de la création de la classe moyenne dans notre pays. Nous sommes sans ignorer que nous constatons qu'il y a beaucoup de services de l'État qui passent des commandes plus de gré à gré et apparemment, il n'y a pas d'intervention de l'autorité de régulation des marchés publics pour qu'à la fin, qu'on puisse se rendre compte est-ce qu'ils ont. Ils l'ont fait et dans quel sens. Et que, moi je pense qu'il y a un problème d'audit, M. Kidjikabeya. Il y a le problème d'audit des passations de marché qui devait se faire en principe à toutes les autorités, auprès de toutes les autorités contractantes par des services, que ce soit dans les privés que dans les services de l'État. Parce que nous sentons que, des fois aussi, la capacité des gens qui s'occupent de la passation des marchés n'est pas vraiment assurée pour que les résultats soient ce que nous voulons, quoi. Mmh. Et nous sentons qu'il y a l'actualisation de la loi qui est très importante, notamment par rapport au conflit d'intérêts. Vous verrez que qui doit accéder au marché? Est-ce qu'un fonctionnaire, il peut accéder au marché? Un fonctionnaire de l'État, en principe, il ne peut pas accéder au marché. Et que la loi, les directives du côté de la Banque mondiale sont claires, la loi doit être appliquée. Il y a déjà un conflit d'intérêts et on peut même suspecter des corruptions dans ce sens-là, quand ce sont des gens qui ne sont pas appropriés à concourir, qui gagnent le marché ou qui ont accès même au marché. C'est ce que je voulais un peu intervenir par rapport
Merci.
À cette problématique. Je pense que si...
D'accord. Merci, ingénieur Séraphin. On va donner la parole à Albert Kotolo d'Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel. Je dis Daniel Kachama et notre invité Guy à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation, Albert?
Merci, monsieur le journaliste. Ma préoccupation est la suivante. Je voulais demander à monsieur l'invité, est-ce qu'après la passation des marchés publics, il n'y a pas un service de contrôle ou de surveillance après tous ces travaux publics? Pourquoi? Parce que ici, je vois dans la ville de Mbandaka, il y a des avenues et des routes réhabilitées, mais jusqu'à quand compte, ils sont inachevés. Est-ce qu'il n'y a pas d'un service de surveillance pour veiller à ce que les travaux publics et là, les marchés publics aient un peu la place dans notre pays?
Et pourquoi les certaines routes de Mbandaka sont inachevées?
Sont inachevées. Par exemple, notre route qui vient de la ville de Mbandaka, que nous appelons Ipeko, c'est une des principales routes aussi de notre ville de Mbandaka. Mais jusqu'à ce qu'on est inachevé, on a arraché seulement les sols, on a levé tout comme ça, et on a abandonné la route comme ça. Lorsqu'il pleut vraiment dans la ville de Mbandaka, dans les croisements de l'avenue Révolution et Ipeko, vraiment c'est aberrant. C'est comme un fleuve. Si vous avez la voiture, vous allez passer comme vous êtes dans une rivière.
D'accord. Merci à Albert Kotolo de Mbandaka. Maître Guy, vous avez la parole.
Merci. Donc, je crois que Jean-Joseph Séraphin a la réponse d'Albert. Le service, effectivement, je suis d'accord avec Séraphin sur toute la ligne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le problème, c'est l'audit, le contrôle. Et l'organe compétent, c'est l'ARMP, je l'ai dit tout à l'heure. L'autorité des régulations des marchés publics. À qui on a donné des moyens pour faire ce contrôle.
C'est une déficit. Donc, s'il y a corruption à grande échelle, ça veut dire que le contrôle n'est pas bien effectué.
Non. Et le contrôle et les sanctions y afférentes. Voilà. Ça, c'est un. Alors, sur les éléments déficients sur la famille politique. Bon, la base, hein, je ne sais pas. Vous savez, c'est aussi un problème de culture. La corruption, dans tous les pays, ça existe, c'est vrai. Mais c'est un problème aussi des niveaux. Normalement, les causes, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les gens ne veulent pas être sérieux. Ils font la politique pas pour servir, mais pour se servir. C'est difficile. Donc, je peux pas répondre là-dessus. Déjà, même quand ils viennent nous demander nos voix, ils nous donnent l'argent pour qu'on les vote. Donc, alors, vous imaginez, quand ils arrivent là-bas, ils récupèrent leur fric. Bon, Patrick, excusez-moi. Mais Patrick, il y a une question intéressante de la société qui revient tout le temps. Le fait qu'une société revienne tout le temps ne veut pas dire qu'il y a corruption.
C'est la même société qui gagne le marché par rapport au service, par rapport.
Oui, ça peut être un indice de corruption.
Oui.
Ce n'est pas une corruption. Il faut creuser.
Parce que c'est pas normal que c'est la même société revient partout.
Ce n'est pas normal.
Elle gagne tous les marchés.
Ce n'est pas anormal non plus. J'ai dit c'est pas normal non plus. Donc il faut creuser. Mais effectivement, il y a des suspicions. Lorsqu'une société qui est censée se faire les travaux, c'est la même société qui fournit les ordinateurs. C'est quand même bizarre. Là, vous dites, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand vous creusez bien, vous vous rendrez compte que dans les statuts, ou dans le directeur financier, ou même le directeur technique, c'est le frère de l'oncle de, voilà. C'est là que vous pouvez démonter la corruption. Et les éléments de corruption, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le délit d'initiative qu'on a parlé. Il y a aussi le fait de monnayer l'octroi des marchés. Ça, c'est la corruption pure.
Bien sûr.
Quelqu'un n'a pas droit à gagner le marché. Il donne l'argent. Il y en a un qui signe même des documents, hein. En termes de dette, non, je reconnais devoir l'argent tel. C'est une fausse dette.
Donc quand je vais recevoir l'argent de l'État,
20%.
Vous avez autant de
carrément. Pourcents. Carrément. Il y en a qui vous disent non, avant de vous payer, je vous paye avant. Avant de me payer, donc je mange, tu manges. Mais c'est pas plus loin. La concussion, c'est quoi? Même si vous gagnez un marché normalement, mais quelqu'un vous demande l'argent.
On vous dit que c'est vous que nous allons sélectionner.
Non, même pas. Vous devez gagner normalement. Vous devez gagner normalement.
Oui.
Mais il vous dit non. C'est vrai, vous avez gagné, mais donnez-moi quand même quelque chose. C'est la concussion. Donc, vous ne pouvez pas payer quelqu'un, alors que c'est son boulot, il est payé par l'État. Quelqu'un ne peut pas demander l'argent.
Et quand c'est un ministre qui demande
mais
ça?
Mais c'est pire encore. C'est pire encore. Ça n'existe pas. Le ministre est payé par l'État. Il ne peut pas être payé par le partenaire privé qui est en rapport de contrat avec l'État. Voilà. Et c'est la concussion. Alors, si en plus l'acte que le ministre veut poser est illégal, ça devient la corruption. Donc c'est des choses assez graves qui se passent.
Patrick a parlé des partenaires internationaux,
voilà,
qui octroient des marchés sans passer par la cellule.
Pour moi, ce n'est pas la corruption. Le problème vient de l'accord de financement que le gouvernement signe avec les partenaires financiers. Par exemple, lorsque vous avez la Banque mondiale qui vient avec un projet, c'est dans l'accord entre le gouvernement et la Banque mondiale qu'on dit comment est-ce que la passation de marché se fera.
En fait, déjà, tout doit être spécifié. Dans...
Le problème, c'est que nous, au niveau provincial, nous subissons. Mais le problème, c'est au niveau de la préparation même du projet. Là, c'est un. Et deux, la question qui se pose, est-ce que les structures provinciales ont les capacités de prendre en charge ce type de contrat, ce type de projet? C'est la question. Mais pour moi, cela n'exclut pas, même si c'était un projet de la banque, financé par la Banque mondiale ou la BAD, tout ce que vous voulez, que le contrôle citoyen soit exercé. Lui, c'est bien qu'il ait constaté ça. S'il est documenté sur des cas de vice des procédures, des cas de conflits d'intérêts, de corruption et de concussion, j'ai vu des cas de coordonnateurs de projets financés par la Banque mondiale qui ont été remerciés, n'est-ce pas, qui ont été poursuivis en justice parce qu'ils étaient
impliqués
dans les cas de corruption. Et enfin, peut-être Julien. Alors, la question qu'il a posée sur la participation de la communauté dans les marchés. En fait, la loi prévoit ce qu'on appelle les marchés à participation communautaire. En fait, ce que les gens n'exercent pas souvent, c'est ce qu'on appelle les travaux avec haute intensité de main-d'œuvre. Il est prévu que pour certains types de marchés qui se passent en province, même ici en la ville de Kinshasa, on va débouchonner les caniveaux. On peut imaginer que la société puisse prévoir dans le contrat qu'elle va payer les riverains pour le ramassage, pour que les caniveaux soient débouchés. C'est une participation communautaire. Mmh. On peut imaginer ça. Et les jeunes gens qui sont désœuvrés,
ils ont l'argent. L'argent.
Voilà. Et non seulement l'argent, en plus, ils vont participer à l'entrée. Donc c'est l'État qui peuvent. Je pense qu'en gros, c'est une question de connaissance de la loi qu'il faut.
L'ingénieur Séraphin a demandé que la loi soit actualisée.
Oui.
Surtout par rapport au délit d'initié.
Oui. Mais mieux que ça, en fait, je suis d'accord qu'on doit actualiser la loi. Mais c'est mieux que ça pour vous montrer juste que c'est pernicieux. Lorsque la loi va en préparation au Parlement ou en votation au Parlement, on a prévu que le délit d'initié, le conflit d'intérêts, soit puni d'emprisonnement. Mmh. Hein, que quelqu'un qui a un conflit d'intérêts soit en prison.
Se retrouve en prison. Mais, pendant combien d'années?
Non, c'était 5 ans, c'est au moment.
5 ans.
Mais maintenant, lorsque le Parlement a voté, ils ont enlevé la peine. Ils ont juste gardé l'amende. Ils ont enlevé l'emprisonnement. Parce que l'amende, c'est une peine aussi.
Oui.
Donc, ils ont juste laissé l'amende. Vous vous rendez compte? Vous comprenez bien?
Oui, c'est clair. on va accueillir Sébastien, qui nous appelle de Dimbelenge au Kassari. Et on va donner la parole à Djuma de Maragui. Sébastien, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Nkashama, bonjour au maître invité sur le plateau.
Vous êtes à Dimbeleng, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la corruption dans la passation des marchés publics?
S'agissant de marchés publics sur le terrain, nous voyons que ce qui est à la base de toutes ces bavures, c'est surtout la politisation du système. Si l'État pouvait aussi prendre l'engagement et des responsabilités à monter des brigades comme certains de prédécesseurs l'ont évoqué là-bas, pour contrôler aussi et donner l'occasion à la population, à partir de la base, de contrôler tout ce qui est déjà prévu par les programmes du chef de l'État, et cela sera aussi une bonne occasion. En ce moment-là, ça ne pourrait pas aussi échapper à quelque chose. Voilà que la politisation de beaucoup de choses, même jusqu'au niveau de l'enseignement, il y a une politique qui est installé jusqu'à la dernière moelle épinière. On politise même l'enseignement, on politise tout. Donc, ce qu'il faut faire comme ma contribution, c'est démonter aussi des brigades au niveau même des territoires, au niveau des provinces, qui va être en dehors de l'organe aussi chargé de contrôler les marchés publics, mais que la population aussi se prenne en charge pour donner des informations directes. Quand tu as un marché qui est déjà signé, que la population soit informée.
Bien, merci. Djuma, vous êtes à Maragui, en Ituri. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, j'aime savoir, comme aujourd'hui, vous parlez des marchés publics. Oui, des marchés publics. Alors, comme dans notre milieu à Maragui, il y a les taxes qui ne correspondent pas. Nous, nous touchons les chalets, comme nous sommes affectés avec l'Ouganda, nous touchons les chalets.
Mmh.
Alors, les taxes, il y a d'autres taxes, comme moi, je suis vendeur de pièces, il y a des taxes qui ne correspondent pas. Vous voyez, le deuxième tour au ciel là, deuxième au ciel là. Est-ce que, pour celui-ci, la loi de la République, est-ce que c'est normal ou pas? C'est ça ma préoccupation.
Voilà, les marchés dont on parle ici, c'est pas les marchés où on vend les articles, les biens, tout ça. C'est des contrats que le gouvernement peut signer avec les particuliers pour par exemple exécuter des travaux. Il y a une route à Maragui qu'il faut refaire. Voilà, l'État signe des contrats avec des personnes, des soumissionnaires. Voilà.
Bon, alors vous voyez, comme nous on parle de Maragui, donc c'est la route nationale. Est-ce que c'est vrai que l'État ne peut pas le cacher à tout moment? Si, il casse deux étoiles là, deux aussi là, deux aussi là. Alors, comment nous serons. Moi aussi, je cherche quoi? Mais l'intérêt est l'intérêt de l'État. Alors, c'est à tout moment l'État.
D'accord. L'État est là. Merci, Djuma de Maragui. Maître Guy, vous avez la parole.
Oui, c'est une question intéressante de l'ami qui. Vous savez, il ne faut pas non plus diaboliser la politique. La politique au sens noble, c'est la gestion de la cité, de la communauté, n'est-ce pas? Les marchés publics en tant que technique c'est au service de la mise en œuvre des politiques publiques. Sauf que chez nous, quand on dit politique, tout le monde est braqué.
On dit, la politique, c'est le mensonge, c'est...
Non!
Toutes les mauvaises choses se retrouvent là-bas.
Mais pour que le maire de la ville puisse s'assurer que l'assainissement est correct, ramassage des ordures et tout, il peut passer un marché. N'est-ce pas? C'est un politique. Au sens noble, lui, le politique, il met en œuvre. Et les marchés vont l'aider à avoir un bon prestataire de services qui vont qui va plutôt exécuter ou mais qui va rendre la ville propre.
Voilà.
Donc il faut pas diaboliser la politique. Donc et ça c'est un. Et deux, il faut responsabiliser aussi les politiques, parce que souvent nous les techniciens, on a tendance à dire non les politiques non. C'est soit eux qui répondent devant le peuple, il faut les responsabiliser, mais il faut que les politiques se sachent aussi que eux-mêmes ils ont voté des lois. Qui les cadre dans le cadre de la mise en œuvre.
Alors, par rapport à cette question des brigades, mettre en place des brigades.
Oui, en fait, pour moi, ce n'est même pas nécessairement lié au marché public, c'est lié à la gestion de la cité. Mmh. En fait, c'est ce qu'on appelle les travaux en régie. Donc, une commune, un groupement, ou même une cité, même un territoire, mais bon, il n'y en a peut-être plus, peut mettre en place des brigades pour l'entretien, pour la prévention. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'une érosion qui a commencé depuis 4-5 ans, c'est lorsqu'elle coupe la route, qu'on se rend compte que l'érosion existe. Ah, à Kinshasa, est-ce que nous avons une équipe qui détecte les risques de nœuds de poule?
Maître Guy, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression qu'on parlera de la corruption.
On a
puis la corruption va continuer. Il faut une thérapie des chocs. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Il y a quatre niveaux. Premièrement, il faut mettre en place des mesures de prévention de la corruption. Donc il y a des mesures, des textes, tout ça. Il y a des mesures de détection de la corruption. Ça veut dire que, est-ce que vous avez des enquêtes éventuellement? Lorsque les enquêtes sont menées, il faut en plus avoir des mesures de mise en œuvre des sanctions éventuelles. Et non seulement qu'il y ait des sanctions, mais en plus, il faut suivre l'exécution de ces sanctions. Et là, le cycle sera parfait. Donc il faut prévenir la corruption, avec les règles, avec la formation, avec la déontologie, avec les codes d'éthique, tout ce que vous voulez. Il faut détecter la corruption. Il faut qu'il y ait des gens compétents qui puissent le faire.
Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui se sont retrouvés en prison? Déjà, dans la loi, on a enlevé cette partie d'emprisonnement.
Oui, mais ça ne suffit pas. Mais il y a d'autres infractions, comme la corruption dans les marchés publics, qui peut exister. Comme les fausses en écriture, qui est toujours une infraction qui peut amener quelqu'un en prison. Et en plus, si c'est une fois en écriture publique, c'est encore pire. Donc, ce n'est pas fini.
Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions exemplaires? Des sanctions exemplaires
De mémoire, non. Pas encore.
Pas encore.
C'est grave.
Maître Guy Kabeya, expert en passation des marchés publics, merci.